2 Pierre chapitre 1 verset 12.
Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes en parlaient de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors voilà, nous passons à une autre valeur clé pour notre Église, B pour Bible. C'est une valeur que nous n'avons pas inventée nous-mêmes, c'est une valeur que nous avons héritée de nos pères, autant nos pères baptistes que nos pères protestants, réformés, notamment le rôle de la parole dans la vie d'Église, dans la vie du chrétien. Et il y a parmi ces protestants, ces réformés, un pasteur autrefois assez connu en France, Adolf Monod, et il a écrit un ouvrage qui est bien apprécié, bien connu parmi les chrétiens, il s'appelle « les adieux de Monod », parce qu'à la fin de sa vie, il avait le cancer, il était alité, donc il ne pouvait plus venir à l'église prêcher les dimanches matins, il était alité, mais les chrétiens de son église venaient après le culte le voir, et il avait toujours quelque chose à leur dire depuis son lit, et ses entretiens ont été recueillis dans ce livre, Les Adieux de Monod. Et il ne savait pas la durée de temps qui lui restait, donc chaque vie, chaque semaine, c'était peut-être la dernière, et c'est ce qui donne toute une richesse à ses adieux, où il transmet ce qui vraiment a à cœur, ce qu'il souhaite pour ses chrétiens. Et en quelque sorte, c'est ce que nous avons ici, vers la fin du Nouveau Testament, on trouve plusieurs épîtres qui sont comme les adieux des apôtres, et les adieux ici de l'apôtre Pierre. Il y a 2 Timothée qui est en quelque sorte les adieux de l'apôtre Paul envers Timothée. Et il est intéressant de noter ce qui se trouve dans ces adieux de Pierre ou de Paul. Et c'est pareil, pour que ce soit Paul ou que ce soit Pierre, ou même dans un sens l'apôtre Jean et Jude, dans leurs derniers écrits, ces dernières écrits qu'ils laissent aux chrétiens, eh bien, on trouve la même chose, on trouve un appel à rester attaché à la parole, à la Bible, avec notamment des avertissements contre des faux enseignants, des faux docteurs. Et c'est ce qu'il rappelle, vous l'avez vu dans son texte, en 2 Pierre chapitre 12, il dit « Je veux vous rappeler, verset 12, je veux vous rappeler ces choses, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, sachant que je vais la quitter bientôt. » Donc ce sont un peu mes adieux, et puis il leur demande de vraiment prêter attention à la parole. Il répète la même chose en chapitre 3, verset 1 et 2. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des affaiblissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. » Donc, ce qui préoccupait les apôtres en voyant leur mort s'approcher, c'est que les églises restent vraiment, vraiment attachées aux Écritures. Ils n'attendaient pas une succession apostolique pour aider. Ils savent qu'ils vont partir, ils vont mourir, et ce qui leur laisse, c'est la parole écrite, les Écritures. Et c'est déjà ça un peu étonnant, ces adieux, de voir le contenu des adieux. Ils ne disent pas « attention à l'Empire romain qui risque de vous embêter », ils ne disent pas « attention au budget de l'Église qui risque de vous stresser ». Surtout, ce qu'ils disent aux Églises, c'est « attention aux faux enseignants, attention aux mauvais enseignants ». Et donc, pour cela, restez très très attachés à la Bible. Ce l'appel ici, c'est « vous feriez bien de prêter attention à la parole écrite ». Alors, puisque le dernier vœu, le dernier appel des apôtres, c'est un appel à s'attacher à cette parole, nous ferons bien, je crois, d'en faire une valeur clé dans la vie de l'Église. Et donc, pour les quelques dimanches à venir, nous allons regarder ces derniers écrits du Nouveau Testament, autant de Pierre que de Timothée, par exemple, où il y a un appel à prêter attention à la parole, à accorder une grande place à la parole dans la vie de notre Église. Alors, nous allons prendre ce texte ce matin, et pour nous aider à donner une grande place à la parole, il faut voir dans notre texte que la Bible, elle est plus certaine, ensuite elle est très brillante, et enfin elle n'est pas assez. Nous allons voir que la Bible est plus certaine, elle est très brillante, et elle n'est pas assez. Tout d'abord, la Bible est plus certaine. C'est la phrase qu'on trouve dans le verset 19, mais il commence en verset 16, il dit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues ». Donc toute la question ici, c'est qu'est-ce qu'on va suivre en tant qu'Église, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on va suivre? On parle du marché d'idées, on est dans un pays libre, on peut croire ce qu'on veut, mais tout individu et toute communauté religieuse doit décider ce qui va suivre, quelle sera l'autorité suprême dans sa vie. Et tout le monde fonctionne avec une autorité suprême. Il faut juste savoir laquelle. Alors, quelles sont les options en tant qu'Église? Qu'est-ce que nous allons suivre? Eh bien, je vois trois dans ce texte, trois options. On peut suivre les fables, on peut suivre l'expérience personnelle, ou on peut suivre notre avis personnel, nos interprétations personnelles. Donc, les fables, l'expérience et l'avis personnel. Mais la Bible est plus certaine, c'est ce que nous voulons voir. Tout d'abord, il dit en verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. » C'est quoi une fable habilement conçue? Le mot grec, vous la connaissez pour fable, c'est « mythos », donc « d'un mythe ». Donc c'est le mot grec signifie « histoire, parole », mais toujours inventé, une invention humaine. Histoire, légende, invention humaine. Comment se développent les fables? Eh bien, vous savez, on parle de quelque chose de vrai, on parle d'une bonne idée, on embellit, on modifie, on laisse agir le temps, et puis on a une jolie fable. Et beaucoup pensent même que la Bible en fait partie de ces fables. Aujourd'hui, on traite la Bible de fables. Mais c'est quand même fort que Pierre se distingue. Il disait, non, nous n'avons pas, justement, nous ne suivons pas des fables. Ce serait curieux pour Pierre de dire qu'ils n'ont pas suivi des fables s'ils savaient que la plupart de la Bible contenait des fables. Mais non, il dit, nous n'avons pas suivi des fables, nous avons suivi quelque chose que nous avons vu de nos propres yeux. C'est ça la force de la Bible. La Bible est principalement le récit des témoins qui ont vu, des témoins oculaires, des témoins d'événements historiques vrais. Verset 16, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est ça que nous avons suivi. Nous avons suivi quelque chose de vrai, un événement vrai, la vérité. On parle de, les Français connaissent bien, les fables de La Fontaine. Ce sont des idées intéressantes. Mais quand on creuse un peu les fables, on s'intéresse pas à savoir si c'est vrai, si c'est des événements qui ont vraiment eu lieu. D'ailleurs, vous savez, c'est probablement pas des événements entre ces animaux qui ont vraiment eu lieu, mais on retient une idée. Donc, c'est des choses habilement conçues, c'est des fables habilement conçues, d'intérêt commun, mais la Bible ne fonctionne pas comme ça. C'est pas juste des bonnes idées. La Bible, tout dépend si c'est vrai ou pas. Pierre ici parle de la voie de la vérité. c'est cette voie de la vérité qui nous intéresse. Or, ce qui est très intéressant, c'est que Paul, dans sa lettre à Tite, où c'est aussi un peu ce... où l'appelle Tite à rester fidèle aussi, Paul utilise ce même mot fable pour décrire le judaïsme un peu de son époque, en tout cas le judaïsme qui a rejeté Jésus. Et en Tite chapitre 1 verset 13, il dit qu'il ne faut pas s'attacher à des fables judaïques et à des commandements d'hommes. Donc ces fables judaïques, des commandements d'hommes, c'était le, voilà, le judaïsme, en tout cas le judaïsme... Pas de Moïse, mais le judaïsme qui a rejeté Jésus, le judaïsme qui a ajouté justement toutes ces traditions, ces rituels, ces superstitions qui se sont développées en supplément à l'Ancien Testament, tous ces commandements d'hommes, et c'est avec ces fables-là, ce judaïsme-là que Jésus il a combattu, il a reproché les pharisiens, vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attacher à des traditions d'hommes, à des commandements d'hommes. Et tous ces gens, ces pharisiens, ils se disaient très bibliques, mais finalement ils suivaient des fables habilement conçues. Toute leur religion était finalement une fable habilement conçue. Toute leur tradition avait noyé le poisson de la vérité. Alors aujourd'hui on regarde un peu la religion. L'homme moderne regarde ça et dit, bon, la religion, c'est des fables, c'est habilement conçu, c'est inventé par les hommes, c'est des traditions, c'est des légendes, c'est des mythes pour manipuler, pour contrôler les gens. Et dans un sens, la Bible dit oui, oui et amen à ça. Les religions sont des fables habilement conçues pour manipuler et contrôler les gens. La Bible dit, justement, il ne faut pas suivre des fables habilement conçues, il faut suivre la vérité. Mais il faut savoir qu'il y a des fables religieuses, et puis il y a des fables athées. Il y a des fables anciennes et des fables modernes. Il y a Karl Marx, par exemple, et c'est lui qui a surtout dit les religions, c'est des fables, c'est pour contrôler, c'est pour manipuler la population. Alors qu'est-ce qu'il a fait derrière ? Eh bien, il a inventé une autre fable, habilement conçue, on va dire, qui a été utilisée pour contrôler et manipuler. Donc, une fable, finalement, ne peut pas reprocher une autre fable d'être une fable. Une invention humaine et une autre, que ça soit ancien, moderne, ou religieux, pas religieux, c'est pareil. Le critère final ne peut pas être le commandement d'homme, l'invention humaine, nos propres idées. Et ça ressortait clairement cette semaine à l'étude biblique, Vincent, l'étude sur l'éthique portée sur l'avortement. Et c'est très intéressant ce qu'il disait. Il a montré qu'il y a 40 ans, l'avortement était un crime, alors qu'aujourd'hui, c'est un droit. On dit que c'est un droit de l'homme, un droit remboursé par le Sécu. Donc, il y a 40 ans, c'est un crime. Aujourd'hui, c'est un droit. Inversement, il y a des choses qui se faisaient il y a 40 ans, qui n'étaient pas du tout des crimes, et qui aujourd'hui sont lourdement sanctionnés. Je pense à certaines formes de racisme, de ségrégation. Il y a 40 ans et plus, c'était largement toléré. Aujourd'hui, c'est peut-être toujours dans le cœur de l'homme, mais la loi va lourdement réprimander et appeler ça crime. Donc il y a des choses qu'on faisait il y a 40 ans, qu'on appelait crimes, et qui sont aujourd'hui sont tout à fait les droits de l'homme, selon la pensée des gens, et il y a des choses qu'il y a 40 ans qui étaient largement acceptées, qu'aujourd'hui sont des crimes. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour 40 ans dans l'avenir ? Ça voudrait dire qu'il y a des choses qu'aujourd'hui la société fait, qui sont acceptées, qui seront des crimes pour nos petits-enfants. C'est-à-dire, la société aujourd'hui fait des choses largement acceptées qui vont être appelées crimes en 40 ans. Et il y a des choses que l'on fait qui aujourd'hui sont considérées illégales, criminelles et horribles et qui seront dans 40 ans largement acceptées et répandues. Et c'est là où on voit que c'est quand même fable contre fable, c'est invention humaine. Qui dit vrai, qui dit faux dans tout ça ? Qui suit une fable, qui suit la vérité ? Est-ce que nous aujourd'hui on suit la fable et qu'il y a 40 ans ils suivaient la vérité, ou est-ce que c'est l'inverse ? Mais qui peut trancher ? La seule solution, c'est quelque chose qui n'est pas d'invention humaine, n'est pas mythe, n'est pas de nous-mêmes, c'est d'inspiration divine. C'est pour ça que nous avons une parole plus certaine, une parole qui traverse les âges et les cultures et qui tranche et qui est basé sur la vérité. Donc une option, c'est ce que j'appelle tradition humaine, ici fable ou mythe. Les traditions humaines, autant religieuses que non religieuses, sont pas fiables. La Bible est plus certaine. Une autre option qu'on pourrait suivre, que les gens parfois suivent, c'est l'expérience vécue. Pierre lui-même, ici, dans les versets 17 et 18, parle de son expérience sur cette fameuse montagne, notamment si vous avez le récit en Marc chapitre 9, mais c'est cette montagne où Jésus a été transfiguré, comme on dit, et il a vu Moïse et Élie avec Jésus. Il a vu toute cette gloire, cette majesté resplendissante de Jésus. Il dit « Nous étions avec lui sur la montagne ». Donc, pour Pierre, c'était une expérience remarquable, c'était une expérience forte, c'était du vécu personnel. Et puis, après avoir parlé de cette expérience très forte, le verset 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, notamment l'Écriture. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, il parle de son expérience sur la montagne, quelque chose de très fort. Il a vu, il a entendu une voix du ciel, il a vu Jésus lui-même, et il dit, eh bien, nous avons quelque chose de plus certain, plus fiable, c'est la parole écrite. Comme dit une traduction, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Je pense qu'on est tous passés par là, de dire un jour, si seulement j'avais une voix du ciel qui me parlait, si seulement j'avais une vision claire, si seulement j'avais ça, eh bien, je pourrais être sûr et certaine. Mais là se pose la question de l'origine de cette voix et de cette vision. En fait, c'est ça le problème. L'expérience personnelle peut venir de plusieurs sources. Il y a plusieurs possibilités. Quelqu'un qui dit, mais j'ai vu quelque chose, j'ai entendu une voix. Eh bien, d'où vient cette voix, d'où vient cette vision? Une possibilité, c'est juste ma propre imagination. Je l'ai imaginé, je l'ai halluciné, je l'ai rêvé parce que j'ai mal dormi, parce que j'ai mal digéré mon repas la veille. J'avais le sommeil trouble, donc voilà. Donc ça, c'est une possibilité, c'est juste moi-même, je l'imagine. Donc en ce cas-là, c'est pas très fiable. Une autre origine possible d'une voix céleste, d'une vision, tout ça, d'accord, c'est peut-être d'origine spirituelle, mais d'une source mauvaise, occulte. Et donc là, c'est dangereux aussi. Et puis enfin, la dernière possibilité, c'est que ça soit vraiment de Dieu, comme cette voix, cette vision que Pierre avait. Mais dans ces trois possibilités, il y a juste une sur trois qui est fiable. Donc on a une chance sur trois de pouvoir bien s'orienter, bien se guider dans la vie. Alors qu'avec la Bible, la parole écrite, c'est 100% sûr que ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que la parole est plus certaine. Et quand il faut trancher, quand il faut orienter l'Église, c'est là où nous faisons bien de prêter attention à la source sûre et certaine, plutôt qu'une source qui est incertaine. Et c'est ce que Pierre il recommande à cette Église. Faites attention, prêtez attention à la parole. Il ne leur dit pas, mettez-vous sur la montagne, au même endroit où j'étais, et en espérant que vous voyez la même chose que moi j'ai vu, et là vous serez au clair pour la vie chrétienne. C'est pas ce qu'il dit, il dit nous avons vu ça, c'est une expérience forte, mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole. Donc les églises peuvent suivre la tradition, mais c'est nous avons la Bible plus certaine. Les églises peuvent suivre l'expérience, mais nous avons la parole plus certaine. Et puis enfin, les églises pourraient, c'est déconseillé, mais pourraient suivre l'interprétation personnelle, les avis personnels. Il met en garde ça dans verset 20. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, personnelle. C'est-à-dire, quand on aborde la Bible, c'est un peu le problème de nos jours, on aborde la Bible, et puis quand on lit, on dit, j'interprète un passage de la Bible comme cela me convient, à la lumière de ma culture dans laquelle je vis. Souvent, c'est pour faire correspondre la Bible avec la pensée moderne, avec l'ère du temps. On se dit que les rédacteurs de la Bible ne savent pas ce que nous savons aujourd'hui, donc il faut réinterpréter pour s'aligner sur les dernières nouvelles de la sociologie ou de la psychologie ou de la science et tout ça. Mais dans ce cas, on ne suit pas vraiment la Bible, on suit l'ère du temps, on suit la pensée moderne qui, elle, aussi est très fluctuante. C'est vrai, dans chaque culture, il y aura des passages difficiles. Hein. À la fin de Pierre, il dit, il parle des écrits de Paul, qu'il estime déjà étant inspirés. Et en 2 Pierre chapitre 3, verset 16, c'est ce que Paul fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc, et dans les écrits de Paul, et puis dans toute l'écriture, il y a des passages difficiles à comprendre, dit l'apôtre Pierre. Ce qui est intéressant, il ne dit pas lesquels sont difficiles à comprendre. Et je pense que dans chaque culture, chaque génération, il y a des passages difficiles à comprendre, pas forcément les mêmes d'une culture à une autre, d'une génération à une autre, des passages qui choquent nos sensibilités, qui ne conviennent pas à la pensée du jour. Mais ici, il dit que tordre le sens n'est pas la solution. Inventer sa propre interprétation n'est pas la solution. Adapter la Bible au monde n'est pas la solution. Jouer le caméléon, c'est pas la solution. Et je pense que même nos interlocuteurs non chrétiens, parfois ils peuvent apprécier simplement qu'on a des convictions claires, et on les affirme et on ne change pas tous les jours. Il y a un certain respect que la société apporte pour quelqu'un qui est fidèle dans ses convictions et qui ne change pas tous les jours. J'ai entendu récemment la conversation entre un athée connu, et puis une pasteur très libérale qui ne croit pas une grande partie de la Bible. Et cet athée, c'est un athée qui milite vraiment contre la foi chrétienne. Et donc cette pasteur voulait se démarquer un peu des chrétiens qui croient vraiment toute la Bible, qui le prennent au mot. Et donc, elle dit dans cet échange, « Je suis une chrétienne libérale et je ne prends pas des histoires littéralement. Je ne crois pas, par exemple, que Jésus soit mort pour nos péchés, la doctrine de l'expiation. » Et donc, c'était pour se démarquer et avoir une écoute de chez cet athée. Et sa réponse, je dis à lui, c'était, « Je dirais que si vous ne croyez pas que Jésus de Nazareth soit le Christ, le Messie, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que par son sacrifice nos péchés sont pardonnés, vous n'êtes pas vraiment chrétien au vrai sens du terme. » Ça, c'est un athée qui milite contre tout ça, mais il dit, au moins soyez, ça ne sert à rien de réinventer, réinterprétation de toute la Bible. Donc, ça, c'est les trois options. La tradition, souvent basé sur invention humaine, commandement d'homme, mythe, l'expérience personnelle ou l'interprétation personnelle. Et Pierre nous exhorte à choisir la parole plus certaine, la Bible, qui est plus fiable, et nous voulons suivre la Bible. Et en fait, pour nous situer notre Église et le monde évangélique, c'est surtout notre rapport avec la parole, avec la Bible, qui nous permet de nous situer par rapport à d'autres courants. Si ça vous intéresse, c'est notre conception de la Bible par rapport à la tradition qui va nous démarquer, notamment du catholicisme, qui met une grande importance sur la tradition, les commandements d'homme. C'est notre rapport avec la Bible qui va nous distinguer avec le charismatisme, le pentecôtisme, qui met plus d'accent, plus d'importance sur l'expérience, le vécu, les voies et les visions. Et puis c'est notre rapport avec la Bible par rapport à la pensée moderne et des interprétations nouvelles, c'est ça qui va nous démarquer du protestantisme libéral. Et pour au moins vous permettre de nous situer par rapport au reste qui se fait dans le monde, c'est souvent ça va être par rapport à notre attitude face à la Bible, toute la Bible, C'est pas pour dire que toutes les traditions sont mauvaises ou que toutes les expériences sont mauvaises ou que toutes les idées modernes sont mauvaises, mais c'est plutôt là où on les place à côté de la Bible. Et nous croyons que la Bible est toujours plus certaine et a toujours une place prépondérante par rapport à toutes ces choses. Et donc, dans notre Église, ce que c'est, on veut donner, on fait exprès de donner une place importante à la parole. Quand on vient un dimanche, par exemple, à l'Église, les chants, on veut choisir les chants où l'on chante la parole et qui nous mettent devant la parole. C'est ce que Paul nous exhorte à faire. C'est nos cantiques qui véhiculent, qui nous permettent d'être remplis avec la parole. Et après, quand on prie, on veut prier la parole et s'appuyer. C'est pour ça qu'on lit des psaumes qui inspirent nos prières. Et puis, même quand on prend la Sainte Cène, c'est pour visionner un peu le message qui est au cœur de la parole. Et puis, il y a ce temps où on écoute la parole expliquée. Donc, même nos cultes, on veut faire exprès de donner une place importante à la parole, une valeur clé de notre Église. Donc, la parole est plus certaine. Ensuite, nous allons voir que la Bible est très brillante. La Bible est plus certaine, la Bible est très brillante. Que nous voyons ici, verset 19, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'image ici, c'est la nuit sombre, mais on a une petite bougie qui éclaire, et puis l'aurore. On attend et l'aurore arrive et la lumière brille d'autant plus. Et puis jusqu'au plein jour, l'étoile du matin, le soleil se lève. Et on n'a plus besoin de la petite bougie. Mais la parole est brillante, elle brille dans un lieu obscur. Et quelque sorte, l'idée, c'est que l'effet de la Bible dans la vie d'Église, c'est toujours donner de plus en plus de lumière. Il y a une progression de lumière ici, une lumière croissante dans ce verset. On sait que Jésus revient et il va apporter pleine lumière, mais en attendant, nous avançons avec la Bible et la Bible apporte toujours de plus en plus de lumière dans notre vie, dans la vie de notre Église. C'est un thème courant, connu dans la Bible, que la Bible, la parole de Dieu est l'image de la parole de Dieu, c'est une lampe, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Et ça, on le trouve un peu partout. Et quand on y pense un peu, la première fois que Dieu a parlé, a donné sa parole dans un lieu obscur, dans les ténèbres, et que la lumière est arrivée et que le soleil s'est levé, la première fois que Dieu a parlé, a donné sa parole dans un lieu obscur, c'était en Genèse. En Genèse 1, lors de la création. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait briller la lumière dans un lieu obscur par sa parole. Et c'était en parlant, Dieu dit, et les choses ont existé. Et donc l'effet de la parole en Genèse 1, c'est vie et lumière. Dieu a parlé et il a créé. Donc l'effet de la parole en Genèse 1, c'est vie et lumière. Et nous croyons que c'est le même effet dans la vie d'Église quand il y a la parole, cette parole prophétique, ces écritures, le même effet, c'est vie et lumière pour une Église. Pierre rappelle justement en chapitre 3, il fait le lien entre la création et la parole qui doit encore, il faut encore prêter attention à cette même parole. En verset 5, il dit que les faux docteurs, tout ça, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, et par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Donc, il dit cette parole, c'est très important, il dit parce que c'est la parole de Dieu qui a fait exister les cieux et la terre. Et cette même parole, la parole de Dieu existe et prévoit la suite. Donc, et c'est toujours ça à travers la Bible. Dieu crée la vie, il crée la lumière par sa parole. Il crée la vie spirituelle par sa parole. Et c'est sa parole, quand on lui donne à cette Bible une place centrale dans la vie de notre Église, c'est ce qui crée vie et lumière. Tout ça pour dire que le signe qu'une Église est biblique, c'est qu'il y a de la vie. Et il y a une croissance, il y a une progression, il y a un changement. Et comme, comme, comme l'aurore qui éclaire de plus en plus. C'est ce qu'on voit tout au long de la vie du chrétien, la vie d'église. Il y a des, quand la parole est au centre, il y a des nouvelles découvertes. Il y a cette croissance, ce dynamisme, et c'est le signe qu'une église écoute la Bible, parce que il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. Il y a toujours encore des lieux obscurs dans notre intelligence, dans notre cœur, être éclairé. Et quand on s'expose à la lumière de la Bible, quand on prête attention, eh bien la lumière est croissante. La devise de beaucoup d'églises à l'époque de la Réforme, c'était « réformer et toujours à réformer » ou « réformer et en réformation ». C'est-à-dire, il ne voulait pas se contenter juste d'avoir retrouvé la Bible, mais il voulait dire on se soumet à la parole et on est prêt à encore être changé par la lumière qui pénètre, qui éclaire, qui veut toujours éclairer davantage. Et à nous, donc, en tant qu'Église, de s'exposer à la lumière, comme on fait pour les plantes, comment vous faites pour que les plantes croissent bien chez vous. En tout cas, chez moi, je ne fais pas très bien, mais il faut les mettre devant une fenêtre, il faut mettre devant la lumière, et c'est ça où les... Et il y a toujours une croissance. Et l'Église est cette plante, et il faut la mettre constamment dans la lumière, et espérer qu'il y a toujours des nouvelles choses qui poussent, des nouvelles idées qui germent, parce que la Bible, la parole de Dieu est en train de les créer. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on parcourt souvent des livres, vous avez remarqué ça, on prend un livre, Galates ou les Actes, et puis on fait chapitre après chapitre. C'est pour nous exposer à toute la lumière de la Bible, tout le conseil de Dieu. Cela nous permet de prêter attention à toute la parole, pas juste nos passages préférés, ou pas juste à des vérités, des doctrines faciles, mais de voir un peu tout. De temps en temps, il faut faire même ces passages qui sont difficiles à comprendre, mais c'est à la lumière de ces passages que les chrétiens sont transformés, que les églises sont perfectionnées vers la maturité. Et c'est d'être confronté avec cette parole où nous pouvons voir finalement qui est notre guide, quel est le guide de notre Église? On est obligé de poser des questions. Que faisons-nous qui relève simplement de la tradition, invention humaine, et que faisons-nous qui relève directement de la parole? Ça, c'est une question que toute Église doit se poser régulièrement. Que faisons-nous qui relève de juste nos goûts, nos expériences, et que faisons-nous qui relève directement de la parole? C'est la Bible qui crée cette dynamique, ces nouveautés, ce changement vers la lumière, vers le plein jour. Donc la Bible, elle est plus certaine, la Bible est très brillante, et elle éclaire tout, et elle veut toujours nous faire grandir. Et puis enfin, la Bible n'est pas assez. La Bible n'est pas assez. Là, je sais, je frôle l'hérésie, parce que c'est justement ce que disent les faux docteurs. Et je crois fermement, j'ai souvent enseigné dans mon cours de bibliologie que la Bible est suffisante. C'est une clé de la réforme, la Bible est suffisante, nous avons tout ce qu'il faut dans la Bible est suffisante. Mais quand je dis la Bible n'est pas assez, en quelque sorte je veux rappeler que le livre en lui-même n'est pas assez. C'est pas parce qu'on a une Bible là, devant la chair, que tout va bien. Ce n'est pas en ajoutant le mot « biblique » dans le titre de notre association, on pourrait, Église Baptiste Biblique de Toulouse Minimes, que ça garantit tout. Ce n'est pas à force de dire qu'on est biblique, qu'on l'est et qu'on le reste. Ce n'est pas à force de se glorifier d'être plus biblique de tout le reste qu'on est biblique. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de ne pas l'être. Ce n'est pas du papier qui nous sauve. J'ai entendu une histoire très intéressante. Il y a John MacArthur, c'est ce pasteur, il est très connu pour avoir incarné cette valeur de la Bible, la centralité de la Bible dans son ministère, dans son église, 40 ans de ministère. Et on lui demandait un jour, est-ce que dans tes 40 années de ministère, est-ce que tu as un souvenir mémorable que tu veux partager? Et il a dit oui, je pense à un. C'est un jour, une journée spéciale à l'église, on avait un invité qui prêchait, et cet invité, c'était un vieux de la vieille, un grand homme de foi qui défendait la Bible et tout ça, et il prêchait. Et puis, dans son message, il disait, vous savez, il y a des gens dans la vie, d'autres églises, d'autres milieux chrétiens, qui, par rapport à leur attitude de la Bible, vous savez ce qu'ils font avec la Bible? Et puis il a pris sa Bible, il l'a jetée dans l'allée centrale. Alors là, ça... Et puis il est allé ramasser la Bible. Il dit, mais vous, votre pasteur, il ne fait pas ça. Et après, en parlant avec John, il a dit, vous savez, ça c'était ma Bible jetable. Donc, ça illustre plusieurs choses, je crois. C'est vrai, par rapport à certaines attitudes par la Bible, autant jeter, c'est choquant de voir les pages voler, mais autant, souvent, la manière de prêcher, de croire cette Bible, les gens font pareil. Mais le fait qu'ils puissent se permettre ça, vous faites ça avec un Coran dans une mosquée, non, non. Ça ne passe pas parce que c'est une autre conception du livre pour l'islam. C'est le livre lui-même qui est presque Dieu. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est le message qui est dans le livre. Ce n'est pas les pages qui nous sauvent. C'est Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Écrit. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui nous sauve. Ce n'est pas l'étude qui nous sauve, ce n'est pas la mémorisation de la Bible qui fait tout. La Bible n'est pas une fin en soi. Et les pharisiens avaient dû être confrontés avec ça, les pharisiens, face à Jésus. C'est ce que Jésus relève, ils disent, ils sondaient les Écritures, ils connaissaient les Écritures, ils étaient très attachés aux Écritures, ils se disaient très, très bibliques. Et Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et c'est pour ça que je dis la Bible n'est pas assez. Si vous ne voyez pas le message dans la Bible, notamment le Christ dans la Bible, le but de la Bible, c'est de nous révéler Jésus-Christ, le Fils bien-aimé qui est venu nous racheter. On va au ciel, non pas parce qu'on a une Bible dans nos mains, parce qu'on a Jésus dans le cœur. Et c'est lui qui est l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Bible fonctionne comme cette bougie qui éclaire, qui nous guide. Un jour, nous aurons Jésus-Christ lui-même. Donc, nous n'en faisons pas une idole du papier, du livre. Nous voulons l'ouvrir et trouver Jésus-Christ. Et la force de la Bible, ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que autant Pierre, il était sur la montagne, et là il a vu la puissance et la majesté de Jésus-Christ, mais on découvre que nous, en tant que chrétiens, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons voir aussi, nous, cette puissance et cette majesté à travers les pages de la Bible. Et c'est le but de notre lecture, de notre étude, de notre prédication, c'est d'y voir Jésus-Christ. Et vous regardez bien Pierre sur la montagne, il n'avait pas tout compris. Il avait vu quelque chose de formidable, mais sur place, il disait un peu n'importe quoi, parce qu'il n'avait pas tout compris. Mais nous, on peut tout comprendre avec l'aide de Dieu, on peut tout comprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, pourquoi il était allé sur la croix, pourquoi il est ressuscité. Et c'est ça le message dans la Bible à découvrir. C'est Jésus dans le cœur qui compte. Et quand on a Jésus dans le cœur, on aime la Bible parce que Jésus aimait la Bible. Et on aime la Bible parce qu'on peut toujours voir davantage Jésus-Christ. C'est lui, l'étoile du matin, qui se lève dans nos cœurs. Alors, est-ce qu'il s'est levé dans votre cœur? Est-ce qu'il se lève dans votre cœur? La meilleure façon de le faire lever dans votre cœur, c'est de prêter attention à cette Bible qui nous parle de lui et qui nous aide à l'aimer et à la suivre. La dernière phrase de cette deuxième épître de Pierre, ce qu'il appelle ces mots d'adieu à tous ces chrétiens, c'est « croissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ ». Pas juste croissez dans l'étude de la parole, mais croissez dans la connaissance et la grâce de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons pour notre Église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer dans la prière.